Bonjour et merci de me recevoir au Théâtre des Ateliers dont vous êtes depuis 2008 le directeur. Alors directeur, vous êtes aussi comédien puisque vous avez fait des études théâtrales, une licence d'études théâtrales à Paris 3, puis vous avez intégré la 61e promotion de l'ENSAT et donc vous êtes maintenant directeur de ce lieu où vous me recevez et vous êtes aussi metteur en scène et c'est à ce titre que vous me recevez puisque vous mettez en scène le Guide du démocrate. Donc d'Éric Arlix et de Jean-Charles Masséra, qui sera joué ici au Théâtre des Ateliers du 13 novembre au 6 décembre 2012, puis qui sera joué à la Comédie de Reims. Alors vous adaptez deux textes, Le Guide du démocrate, qui est un quatre-mains écrit par Arlix et Masséra, et également We Are l'Europe, qui est lui seulement de Jean-Charles Masséra. Alors avant de parler véritablement du contenu de ces textes et puis de votre mise en scène, comment s'est faite cette rencontre entre ce duo Arlix-Masséra, donc tous les deux écrivains, le premier est aussi éditeur et le deuxième assume également la casquette de critique d'art. Comment s'est faite la rencontre et pourquoi ce choix?
Alors la rencontre entre eux s'est faite en fait à l'issue d'une résidence. Ils ont eu une résidence dans un lieu qui s'appelle l'espace Chiasma en banlieue parisienne. Et on leur a demandé en fait de travailler avec des habitants sur la question de la démocratie, sur en fait un projet où il faudrait arriver à l'édition d'un livre. D'accord. Et ils ont fait des rencontres comme ça avec des gens sur des thèmes précis qui sont en fait les chapitres du livre. Et à chaque fois, ils échangeaient, ils faisaient venir des spécialistes, des sociologues, des philosophes. Et ils sont arrivés à cet essai politique qui est édité chez des éditions très sérieuses, des éditions Ligne, mais qui très vite, quand on le lit, on se rend compte qu'il n'a de sérieux que le titre. Et que derrière, on va décortiquer avec cynisme et beaucoup d'humour tous nos petits travers de la vie quotidienne. Et en fait, moi, j'ai découvert ce texte connaissant déjà Jean-Charles Masséra et un peu Éric Arlix comme auteur de ses petites nouvelles ou de ses petits essais. Et c'est venu en fait aussi dans une continuité d'un travail qu'on avait commencé ici avec Jean-Charles Masséra il y a 2 ans. On l'avait invité pour une lecture. Ensuite, on a accueilli un spectacle, donc We Are l'Europe, dans la mise en scène de Benoît Lambert. Après, on a accueilli également Jean-Charles Masséra pour une performance. Et moi, je cherchais un texte un peu à triturer dans tous les sens. Et l'occasion d'adapter aussi, parce que j'aime bien les adaptations de textes, l'occasion d'adapter cet essai politique était pour moi une bonne opportunité, en tout cas comme matière de jeu.
Bienvenue dans une époque de l'indice, du sondage et des prévisions comme représentations ultimes, du caddie malin, du lavage de cerveau rigolo, de l'émotion sur commande, de la pulsion en promo partout, du coaching pour pas trop sombrer quand on commence à être largué, et d'un marché de l'emploi soumis à des flux super tendus et super brutaux comme ambiance, le tout dans la terreur de faire partie de la vague de septembre. Alors avec cette présentation signée Arlix et Masséra, bienvenue dans l'univers du Guide du démocrate, un monde de l'engagement, donc on l'entend bien, mais un monde qui n'est pas dénué d'humour, vous le disiez, et puis on le sent, cette présentation. En effet, sur scène, on a donc 3 personnages, 2 démocrates et 1 démocratiseur, et une idée, s'emparer de la langue de l'ennemi, celle de la com, des politiques comme du marketing, hein, tout dans le même sac, pour se pencher sur le cas de l'homo democraticus, nouvelle évolution de l'homme en quelque sorte, mais sans faire du tout un manifeste politique pur et dur, au contraire, en retournant, en détournant, en triturant les mots jusqu'à la jugulation. Finalement, le Guide du démocrate, c'est une façon de renouer avec la satire.
Tout à fait, c'est tout à fait ça, c'est une forme de critique sociale, mais sur le mode satirique, surtout pour permettre de faire passer justement cette idée souvent un peu difficile qui arrive pour la matière théâtrale, à savoir qu'il ne faut pas que ce soit un pensum, il ne faut pas que ce soit quelque chose de théorique, il faut que ce soit vivant. Et pour que ce soit vivant, il faut que ça mette le doigt sur des choses très précises. Et là, en l'occurrence, par l'humour, en fait, on accède à la... Et c'est pour ça que j'ai envie de monter ce texte au théâtre, c'est-à-dire que l'essai, en fait, est truffé de petites phrases qui se présentent comme une seule saillie de réel à l'intérieur d'une situation, en italique dans l'écriture, comme des sortes d'exemples liés à ces chapitres. Et ça, c'est ça qui m'a donné envie au départ de m'en emparer pour la scène, en me disant qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui disent ça et qu'à partir de là, on développe les situations qui sont citées. Et c'est vrai que l'humour permet surtout de nous éviter une sorte de critique féroce et uniquement méchante, parce que ça pourrait être quelque chose d'assez méprisant en fait pour ces personnes-là dont on parle, sauf qu'en fait on parle de tout le monde et de nous en particulier. C'est vraiment un miroir en fait, ce texte.
Oui, c'est la langue de tout le monde, c'est la langue, dans le dossier de presse, vous dites la langue MDR du démocrate, qui donc investit la scène du Théâtre des Ateliers, et finalement c'est une autre langue, sa propre langue, que le spectateur, mais également les acteurs, sont amenés à retrouver. Alors ici, on rejoint des grandes questions littéraires, mais bien au-delà, on va dire existentielles. Dans quelle mesure parle-t-on vraiment quand on est sujet ? N'est-ce pas plutôt autre chose qui parle à travers nous la plupart du temps ? Par exemple, la société qui nous a donné une éducation, qui nous a laissé en héritage une culture ? Peut-être même le langage qui parle plus à travers nous que nous parlons à travers lui. Donc derrière la politique et l'humour, les trois personnages, est-ce qu'ils ne se tentent pas, comme disait Rimbaud, de trouver une langue ?
Ben c'est au-delà même de trouver une langue, c'est trouver un sens à cette langue. C'est-à-dire que moi j'ai fait le choix d'avoir ce duo plus un, c'est-à-dire que ça c'est vraiment le choix de l'adaptation, d'avoir un couple, homme et femme, et puis ce personnage qui est lui celui qui nous donne vraiment la matière de l'essai. C'est-à-dire, je l'ai appelé le démocratiseur parce que c'est lui qui mène, je dirais, tout le discours théorique. Et les deux sont là pour illustrer les scènes. Et petit à petit, ils se rencontrent. Et c'est vrai que lui manie cette langue de l'ennemi, cette langue comme ça, vraiment de l'économie, des finances, de la mondialisation. Donc c'est lui qui a ce vocabulaire-là. Et les démocrates sont plus dans cette pauvreté langagière du présent, du réel, du facile, on va dire, de la vie de tous les jours, et cette langue qui est comme ça teintée de toute cette culture télévisuelle, internet, téléphonique, qui est en fait une sorte d'héritage immédiat qui appauvrit la langue immédiatement. Et donc la réflexion, c'est comment on redonne du sens à nos vies à partir d'une société qui a aplani, je dirais, les personnalités, qui a aplani la langue, les différences, et on se retrouve tous à parler cette espèce de langue passe-partout qui n'a aucun sens, qui mélange l'anglais, le français, des abréviations de textos. Et donc il y a une recherche, je pense, plutôt d'échapper à ça. C'est-à-dire que le texte ne donne pas de solution, évidemment, il ne finit que sur des questions. Et moi, c'est pour ça que j'ai rajouté aussi à la fin d'autres morceaux de texte d'Eric Arlix d'un autre roman qui s'appelle Le Monde joue, pour finir sur une note un tout petit peu moins interrogative, mais plus pour amener une sorte de critique quand même de la société qui soit une fin un tout petit peu plus portant à conséquence que juste une question, on va dire.
Alors, on va dire retrouver une langue et trouver du sens.
C'est ça. En tout cas, oui, réinventer peut-être aussi sa place dans le monde, et ça passe aussi par la langue. Mais c'est vrai que là, ce qui est très intéressant, c'est les niveaux de langue différents. C'est-à-dire que comment ils arrivent à mixer tout ça, et pour du coup la naissance d'un nouveau langage aussi.
Et c'est là aussi d'où sort le comique, forcément, de ces télescopages de tous les niveaux de langue. Parce que donc, on le rappelle, là on parle de tout ce qu'il y a derrière, en toile de fond, les grandes questions qu'on peut se poser en regardant le spectacle, mais c'est un spectacle où on rit beaucoup, n'est-ce pas ?
Je l'espère. Pour l'instant, pour l'instant, on rit entre nous. En général, quand on rit entre nous, c'est plutôt bon signe.
Voilà.
mais effectivement, alors il y a des choses qui vont être plus grinçantes selon le mood des gens. Ils vont voilà. Mais il y a beaucoup de décalage, évidemment. Moi, je suis parti sur l'idée de prendre des fragments du réel. Donc, on a énormément d'accessoires qui racontent la vie de tous les jours et qu'on détourne, qu'on triture, dont on réinvente l'utilisation. Et puis, c'est un espace qui est très intéressant. Moi, je ne vais pas décrire la scénographie, mais en tout cas, on a un espace qui multiplie tous les possibles de jeux. Donc, en permanence, ça bouge tout le temps. C'est très tonique, très dynamique. Et donc, c'est ce rythme-là qui amène aussi l'humour. Enfin,
on ne peut pas s'ennuyer, donc. Et surtout, on ne peut pas ne pas se reconnaître dans cet homo de Democraticus. C'est finalement le rire que vous nous proposez. C'est presque un rire jaune, parce que les trois personnages qui sont sur scène, ben, c'est nous.
Tout à fait. Alors, il y en a peut-être un qui est un peu moins nous, ce serait le démocratiseur, parce que celui-là est finalement... il nous ressemble, mais son langage est quand même celui d'une culture plus dominante. Mais c'est vrai que si on ne se reconnaît pas, on sera de mauvaise foi, je pense. Il y a une petite vertu cathartique, j'espère, à ce spectacle, quand même. Et c'est vrai que sur la question des portables, la dépendance à toute la nouvelle technologie, à l'impossibilité de communiquer dans la vraie vie, d'être uniquement sur Facebook, par exemple, d'avoir plein d'amis, puis d'être tout seul, en fait, le soir chez soi. Enfin, tout ce paradoxe de la société contemporaine qui isole un peu plus les gens en leur faisant croire qu'ils communiquent plus.
Garo Tartuffe, c'est donc nous que nous allons retrouver sur scène. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans le choix que vous avez fait, les trois personnages changent de rôle, puisqu'on a donc le couple et le démocratiseur. Mais tour à tour, ils vont être amenés à prendre le rôle d'avocat du système et après de procureur du système, pour montrer que, tous à des moments, on peut être en révolte et se dire « mais ça ne va pas ce qui se passe et je me révolte par rapport à ces codes », mais en même temps qu'on les intègre, ces codes.
Tout à fait, on va dire que c'est un spectacle dans lequel il n'y a aucune psychologie linéaire, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui marche beaucoup par petites séquences, donc par des séquences qui n'ont pas forcément de lien logique entre elles, qui sont assumées comme telles. Et c'est vrai que On commence par une critique de la mondialisation, et puis à la fin, le même personnage va faire l'éloge de cette mondialisation, de ce que ça peut permettre comme développement à titre individuel, et puis le démocratiseur va être celui qui va amener la critique au départ, puis finalement, à un moment donné, il va jouer lui-même le trader dont on parle et dont on critique sa présence dans le système. Donc tout tourne pour montrer justement qu'il n'y a pas une figure, mais qu'il y en a plusieurs, et qu'en plus, on ne peut pas associer un comportement à une figure, et que du coup tout le monde est amené effectivement à tour de rôle dans les paradoxes de cette société.
Tout à l'heure on parlait de la langue qui aplanit les individualités, là c'est pareil, puisqu'ils sont amenés à prendre un rôle et son contraire, ça rentre dans la même idée. Alors juste souligner que le couple est interprété par Lise Chevalier et Steven Fafournoux, et que le démocratiseur est joué par François Rabette. Alors on parlait de crise de sens, on parlait de non-remise aux causes des comportements, puisque chacun prend n'importe quel comportement et son contraire, et aussi de révolte qui ne viendra jamais, parce que finalement, après le spectacle, on est toujours dans ce système. C'est donc un message assez désespérant. Heureusement qu'il y a le rire pour faire passer tout ça, mais il y a une question quand même qui surgit quand on parle de ça. D'accord, on a très bien compris, mais comment on fait pour changer tout ça?
Ben ça, c'est la grande question, et à la limite, nous, la fin du spectacle, elle est ouverte, justement. C'est-à-dire que si j'ai rajouté un petit bout sur une critique plus réelle du monde dans lequel on vit, c'est aussi pour amener les spectateurs avec cette question qui a été donc notre question de la saison, mais qui est en fait issue du Guide du démocrate, « Are you prêt ?» et qui est écrite dans le décor, qui revient de manière récurrente. Et en fait, cette question-là, c'est « Are you prêt à faire enfin quelque chose ?» et « Are you prêt à changer ça ?» Are-vous prêt à prendre des décisions pour qu'on ne soit pas totalement dominé, soumis à ce système-là et qu'on se révolte un petit peu? Et donc, en amenant tous ces exemples, toutes ces couches à l'intérieur du spectacle, et en amenant aussi cette réalité-là par moments assez... on a essayé que ce ne soit pas désespérant, mais en tout cas, il y a une certaine mélancolie qui se dégage de certaines scènes, on va dire, de la vie quotidienne. Une certaine forme de tristesse, on va dire. Et du coup, évidemment, c'est pas uniquement un spectacle qui fonctionne que sur le rire. On a des respirations, on a des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une forme de détresse d'être au monde, quoi. En tout cas, sur le désir, sur la question du désir de l'autre, de choses assez minables. Enfin, voilà, ça. On évoque à peu près tout et on essaye de faire en sorte que chacun puisse effectivement se dire ok, maintenant, voilà, j'ai tout ça, je sais tout ça, qu'est-ce que je fais ? Mais en tout cas, moi, je ne me suis pas permis d'amener une solution quand les auteurs eux-mêmes n'en amenaient pas.
Ouais. Et justement, est-ce que le reproche qu'on ne peut pas vous faire, il est là? C'est-à-dire que c'est un spectacle qui, certes, doit fournir un bouleversement et une remise en cause personnelle, mais déjà, ce n'est pas assuré. Et ensuite, est-ce que ce n'est pas facile de critiquer sans rien proposer?
Ça, c'est ce qu'on peut reprocher aux deux auteurs de l'essai, je dirais. Moi... me le reprocher, mais moi en général dans les spectacles que je fais, j'essaye toujours de ne pas amener une solution, quels que soient les thèmes que j'aborde, même quand ils sont tragiques et assez percutants. C'est-à-dire que je me défends toujours de juger les personnages, c'est toujours de laisser ouvert. Là, c'est vrai que c'était un problème pour moi, cette question de non-résolution, de non-solution. C'est pour ça que du coup, la fin est une fin un peu étrange. Pour une fois, j'ai pas fait une fin sèche et définitive. C'est une fin qui reste totalement dans l'ouverture et le naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on ramène du réel dans cette fin, on oublie le théâtre, et c'est une forme pour dire aussi, voilà, on est comme vous, et on ne sait pas, en fait. Mais on a envie de continuer.
Alors, il faut signaler qu'à côté du Guide du démocrate, à partir du 14 novembre, non pas le 13, comme commence le Guide du démocrate, on a avant, à 19h, puisque donc c'est à 20h que vous pouvez voir au Théâtre des Ateliers le Guide du démocrate, on a programme. Qui est donc, si vous pouvez nous en parler, là encore un texte d'Éric Arlix, et les deux fonctionnent ensemble. On peut venir à 19h, à partir du 14 donc, voir programme, et ensuite enchaîner à 20h avec le Guide du démocrate.
Tout à fait. Alors en fait, programme, c'est vraiment une forme courte d'une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, qui a été créée par la personne qui travaille avec moi depuis 10 ans au son, qui est donc Nicolas l'Espagnol Rizzi, qui au départ donc a été formé comme moi à l'ENSAT, on s'est rencontré là-bas, et lui qui a un travail de concepteur sonore, et petit à petit il est devenu compositeur, musicien, vraiment il a affirmé aussi une place d'artiste du son à part entière. Et là il s'est emparé de ce texte-là qui avait été écrit pour le Musée d'art contemporain de Créteil, et qui fonctionne un peu comme un jeu dont on est le héros, mais un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on est dans la tête d'un personnage comme ça qui a des missions à accomplir. Éric Arlix travaille beaucoup là-dessus, sur des missions en milieu urbain, mais des missions qui débouchent en général sur rien, sauf la volonté de changer les choses. Mais il y a toujours cet esprit un peu de... On parle au personnage, le personnage en est dans sa tête, et puis on du coup, là, c'est vraiment, on a l'impression dans ces jeux vidéo où ces personnages doivent tirer, on a le point de vue et on suit un peu comme ça dans des dédales. Et il en a fait une sorte de court-métrage sonore, donc avec un comédien, lui avec son travail de composition électronique dessus très puissant. Et c'est une installation pour 30 spectateurs à peu près, avec un casque. C'est-à-dire qu'on s'assoit sur une chaise, on est les uns derrière les autres, en rang, on met le casque et on doit fermer les yeux. Et à ce moment-là, en fait, il y a des projecteurs qui sont tout autour des spectateurs et qui, pendant tout le texte, vont influer sur la perception, par des couleurs, des chaleurs, la puissance. Donc évidemment, il ne faut pas ouvrir les yeux. Et c'est une sorte de petit parcours, de micro-parcours dans l'univers d'Eric Harlix et dans l'univers un peu, bah, du coup aussi, de Nicolas l'Espagnol Rizzi. Ce qui permet de commencer par ça un peu en apéritif et puis après de découvrir comment son travail se réalise ensuite avec moi et l'écriture d'Eric Harlix, qu'est-ce qu'il en reste dans le guide du démocrate. En tout cas, je pense que c'est une bonne manière aussi de faire une soirée un peu complète pour découvrir des auteurs surtout.
Et un univers aussi, très particulier. Tout à fait. Et un message, puisque c'est le même message qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on retrouve donc dans le programme.
Tout à fait.
Bah écoutez, merci beaucoup Simon Delétang de nous avoir accueillis ici Transistor pour parler du Guide du démocrate, donc à partir du 13 novembre à 20h et de programme, on a bien compris, à partir du 14 novembre, toujours au Théâtre des Ateliers. Merci.
Merci à vous.